Bienvenue dans Espace Horizon Inaccessible. Nous approchons du 50e anniversaire d'Apollo 11. Quelles ont été les étapes successives pour arriver à ce succès? Je vous propose de retrouver Jean-Jacques Kibos, qui va nous répondre à cette question.
Bonjour chers auditeurs. Voyons en quoi consiste le programme Apollo. Ce sont d'abord des installations terrestres. 18 centres dédiés sont créés pour ce programme, dont 3 centres d'études, à Houston, Houstonville et le Kennedy Space Center sur l'île de Merritt en Floride. Il y a 4 bases de lancement, la plus connue c'est Cap Canaveral, évidemment en Floride. Il y en a aussi une à Vandenberg en Californie, essentiellement pour les vols militaires, Wallops Island en Virginie et une petite sur l'île de Jarvis dans le Pacifique. Et pour suivre tous ces vaisseaux, 3 centres de poursuite et de repérage sont installés tout autour de la Terre. Mais le programme Apollo, c'est surtout du matériel. La première fusée de la série, Saturne 1, affiche 660 tonnes de poussée. Et la dernière, la gigantesque fusée Saturne 5, fait 110 mètres de haut, pèse 3038 tonnes, donc 3000 tonnes de kérosène et d'oxygène liquide. Elle est constituée de 3 étages. Un premier étage, fabriqué par Boeing, qui développe 3400 tonnes de poussée. Le second, par North American Aviation, 455 tonnes, et le troisième, installé par McDonnell Douglas, 102 tonnes. Les moteurs du premier étage consomment 15 tonnes de carburant à la seconde, pendant 153 secondes, emmenant l'ensemble à 62 km d'altitude. Saturne V est capable de satelliser autour de la Terre jusqu'à 100 tonnes et d'envoyer près de 50 tonnes vers la Lune. Charles Lindbergh, le vainqueur de l'Atlantique Nord en 1927, assistant au lancement d'Apollo 8, avait été stupéfait d'apprendre que Saturne V consommait chaque dixième de seconde la même quantité de carburant que ce qui lui avait fallu pour traverser l'Atlantique et que la fusée franchissait l'Atlantique en 18 minutes. La capsule Apollo, le vaisseau Apollo lui-même, se compose de 3 millions de pièces et le tableau de bord, devant les astronautes, comporte 506 boutons. La première capsule Apollo est lancée par une version simplifiée de Saturne V, appelée 5SA5. Cette fusée fera un vol d'essai en janvier 64, et une version similaire, SA6, emportera la future capsule lunaire le 28 mai 64 pour faire 50 orbites avant de rentrer dans l'atmosphère le 1er juin 64. Le retour sur Terre de cette capsule Apollo était initialement prévu sous un parachute style deltaplane, une aile de Rogallo, qui aurait permis un guidage du vol plané, solution abandonnée par la suite. Voyons maintenant chacune des premières missions Apollo. Ce programme Apollo est planifié en plusieurs étapes, permettant à chacune d'elles de valider les différentes phases précédant le poser sur la Lune. En 1963, dans une interview donnée à Science et Vie, Wernher von Braun prévoyait un premier alunissage en 68, estimant à 5 ans la mise au point de la fusée Saturne V et des modules lunaires. Certaines petites phrases prononcées par les astronautes ont fait couler beaucoup d'encre, plus plusieurs médias ayant dit à l'époque qu'elles avaient été longuement préparées par les équipes de communication de la NASA. Ce qui est faux, l'agence spatiale américaine avait décidé de laisser les astronautes entièrement libres de leurs propos, sans aucune censure. Nous verrons par la suite que beaucoup ne s'en sont pas privés. Donc, nous commençons par Apollo 1. Apollo 1 avait prévu son premier vol du 21 février au 7 mars 67. C'était un test en orbite terrestre du vaisseau Apollo. Le 27 janvier, essai au sol avec le premier lancement du compte à rebours. Saturne 1B sur le pas de tir du Cap Kennedy, réservoir vide, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee s'installent dans la cabine. Pendant 5 heures, ils vont traiter problème sur problème dans la cabine dont l'atmosphère est composée d'oxygène pur sous haute pression. Ils sont appelés par le sol. « Apollo 1, ici le bunker. Est-ce que vous me recevez ?» Grissom. « Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Comment allons-nous atteindre la Lune si on n'arrive même pas à communiquer entre deux bâtiments ?» Soudain, l'atmosphère s'enflamme. Chaffee crie. « Hé ! On a un feu dans la cabine !» Cockpit commence à déverrouiller les coutilles. Grissom commence à déverrouiller les coutilles. Dans le bunker, Dick Slayton, le chef des astronautes, met une seconde à réaliser ce qui se passe. Il voit avec la caméra qu'il filme le hublot les bras de White, qui lui aussi essaye d'ouvrir les coutilles. « On brûle, sortez-nous de là !» Seront les derniers mots d'équipage. En 30 secondes, les trois astronautes meurent asphyxiés et leurs corps sont carbonisés, la température atteignant 1400 degrés. La paroi du vaisseau cède, des flammes s'échappent de la cabine. La porte d'accès de la cabine n'avait pas pu être ouverte rapidement de l'intérieur, la manœuvre demandant plus de 90 secondes afin d'éviter toute fausse manœuvre au sol. Il faudra aux techniciens 6 minutes pour ouvrir cette porte, noircie par les fumées et déformée par la chaleur. Au centre du Houston, Alan Beam est de permanence. Il reçoit l'appel de Cap Kennedy lui disant « On a perdu l'équipage ». Incrédule, sa réponse est irréelle. « Et où a-t-il pu aller ?» Grissom avait signalé des problèmes électriques lors de ses précédents. Le vaisseau était rempli de cordons électriques circulant dans tous les sens, certains tellement pliés que certains fils étaient dénudés. De plus, les astronautes avaient installé des velcros un peu partout, et l'arrachement des velcros peut produire une étincelle. Un court-circuit a suffi pour enflammer la cabine. Cet accident affecte tous les astronautes, et particulièrement Neil Armstrong, grand ami d'Edgar White. Et le patron des astronautes déclarera plus tard que pour lui, le premier homme sur la Lune aurait dû être Virgil Grissom. Les photos des trois astronautes resteront affichées très longtemps dans les ateliers de fabrication des éléments d'Apollo, pour rappeler combien un simple court-circuit peut avoir des conséquences tragiques. Frank Borman passera de longues heures dans la cabine à l'examiner pour rechercher les causes de ce drame et trouver des solutions pour l'éviter. Il consacrera une année complète à travailler avec les ingénieurs du programme à repenser et essayer toutes les modifications apportées. Par exemple, lorsqu'elle est au sol, la cabine est alimentée avec 40% d'azote inerte et 60% d'oxygène, et la porte s'ouvre en 3 secondes. Et en vol, l'oxygène pur est à la pression normale. À l'intérieur, les circuits électriques sont isolés. Tous les matériaux inflammables sont retirés et remplacés par d'autres, ignifugés, dont les combinaisons spatiales. Les missions Apollo 2 et Apollo 3, initiales programmées, sont annulées par la suite. Elles sont remplacées par une simulation de départ, le 27 juillet 68 avec la fusée Saturne V et la nouvelle cabine Apollo, qui a subi 20 000 modifications suite à l'accident. Le 9 novembre 67, Apollo 4 fait son premier vol test, un vol non habité de Saturne V. Test en orbite du troisième étage avec le service module et le commande module, la capsule Apollo, et rentrée dans l'atmosphère du commande module. Apollo 5, le 22 janvier 68, est un vol non habité aussi. Test en orbite du trio Lunar Module, Service Module, Commande Module, avec plusieurs tests d'allumage de descente du moteur de descente du LEM, puis deux allumages du moteur de remontée. Mais le LEM se met à tournoyer et il rentre prématurément dans l'atmosphère. Les incidents rencontrés sont analysés par les techniciens et corrigés sur les modules suivants. Apollo 6, le 4 avril 68, est un autre essai en vol non habité autour de la Terre, au cours duquel le deuxième étage de la fusée Saturne V subit des défaillances, ainsi que le moteur du module de service. Mais les problèmes ayant été identifiés et résolus, le programme pouvait continuer, mais avec un équipage cette fois. Et Apollo 7 sera donc le premier vol habité en orbite terrestre de la cabine Apollo. Et il est lancé par une fusée Saturne 1B, une Saturne 5 allégée, entre le 11 et le 22 octobre 68. Son objectif est de tester l'ensemble module de commande, la capsule, le module de service, sans embarquer le LEM. À bord de la fusée, Walter Schirra, Don Essel et Walter Cunningham, qui vont faire 163 révolutions autour de la Terre en 10 jours, une simulation de récupération du LEM, et vont allumer plusieurs fois le moteur du module de service. Ce vol est émaillé de très nombreux problèmes techniques. Mais la voie pour Apollo 8 est ouverte et la NASA annonce mi-novembre à la presse son prochain objectif, le tour de la Lune. Information jusqu'alors tenue secrète. L'objectif initial de cette mission, Apollo 8, était de tester le LEM autour de la Terre. Mais le LEM n'est pas prêt. Il est trop lourd. Son câblage électrique est déficient et son moteur a dératé. En juin 68, l'ingénieur en chef du programme Apollo, George Lowe, propose au directeur de la NASA, James Webb, de remplacer le test du LEM en orbite terrestre par un vol autour de la Lune, sans le LEM, pour fin 68. À cette date, le premier vol piloté, Apollo 7, n'avait pas encore eu lieu, Mais l'idée un peu folle est acceptée par le futur commandant d'Apollo 8, Frank Borman. Ce vol anticipé sur le programme permet de devancer les Russes, dont des rumeurs insistantes faisaient état de la préparation d'un vol habité autour de la Lune. La NASA et les astronautes n'ont eu que 18 semaines pour mettre au point le plan de vol et l'entraînement associé. Vol qui s'avérait quelque peu risqué, la fusée Saturn V n'ayant volé que 3 fois, avec un échec enregistré lors du deuxième vol. Un échec de ce vol aurait signifié la fin des ambitions américaines dans la course à la Lune. À ce moment, aucune fusée n'avait dépassé l'altitude de 1400 km. On allait lui demander de monter à 400 000, alors qu'elle n'avait volé qu'une seule fois en conditions opérationnelles. Mais le 21 décembre 68, à 5h du matin, Frank Borman, James Lovell et William Anders s'installent à la cabine d'Apollo. À 5h34, l'écoutille est refermée. À 6 km de là, Wernher von Braun attend ce moment historique. Bill Anders est le pilote du LEM, qui n'est pas dans la fusée. Le décollage du premier vol circumlunaire piloté a lieu à 7h51, heure de Floride, 13h51, heure de Paris. Les moteurs de la fusée libèrent 150 gigawatts, soit une puissance équivalente à celle de toutes les centrales électriques des États-Unis. Les épouses des astronautes venues assister au décollage ne sont pas très rassurées, mais elles ont confiance dans les capacités de leur mari à surmonter ce qui se présentera, ayant prouvé par le passé leur aptitude à gérer des situations exceptionnelles. Lovell s'était posé 2 nuits sur un porte-avions, tous les instruments de son appareil éteints suite à un court-circuit, lisant les indications du tableau de bord avec une lampe de poche entre les dents. Suzanne Borman avait rencontré, 1 mois avant, le directeur du centre de contrôle de Houston, Christopher Kraft. « Chris, j'apprécierais énormément que tu me dises la vérité. D'après toi, quelles sont leurs chances de revenir vivants sur Terre ?» Réponse de Kraft. « Disons 1 chance sur 2. Ça te va ?» Bill Anders, lui, les estimait à 1 sur 3. Dès que la fusée a passé le mur du son, le vacarme assourdissant dans la cabine s'arrête et l'accélération est de 4G. Les moteurs de Saturn V finissent de brûler leur carburant à T0 plus 2 minutes 30. L'accélération s'arrête. Les astronautes passent en apesanteur. Puis ceux du deuxième étage s'allument pour 6 minutes d'une poussée progressive. Enfin, le troisième étage amène en 3 minutes le vaisseau à sa vitesse de satellisation, 8 km par seconde. Après son arrêt, les astronautes se retrouvent en apesanteur. C'est comme être sur une patinoire pour Anders, dont c'est le premier vol. Lovell vérifie la trajectoire du vaisseau avec un sextant en visant les étoiles, car les Américains craignent une action des Russes de perturbation des communications radio qui perturberait aussi les gyroscopes pour désorienter le vaisseau. 2h27 après le décollage, Houston donne leur feu vert. « You are go for LTI ». Translunar Injection. Et à T plus 2h50, Saturn V place Apollo 8 sur une trajectoire l'emportant vers la Lune. Le vaisseau tourne régulièrement sur lui-même, 1 à 2 tours par heure, pour ne pas exposer toujours le même côté aux rayons du soleil et au froid cosmique. Pendant le vol, les astronautes réalisent des films sur l'univers et la Terre, des mesures des étoiles à l'aide de sextants spéciaux, des recherches sur la couronne solaire, des mesures sur les radiations à l'intérieur et à l'extérieur de la capsule, et des enregistrements de leurs propres comportements. Ils vont affronter pour la première fois la traversée des ceintures de Van Allen, qui protège la Terre des radiations cosmiques. Ils portent sur eux un dosimètre pour mesurer leur exposition à ces rayonnements. Les astronautes transmettent les premières images télévision prises à 220 000 km d'altitude, entre la Terre et la Lune. Après 2 jours et demi de voyage, ils arrivent à proximité de la Lune, qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir à travers le hublot, étant noyé à contre-jour dans le halo du Soleil. Et de plus, certains hublots ont été salis par un composant d'étanchéité qui s'est vaporisé entre les couches de verre lors du décollage. À T0 plus 68 heures, 58 minutes et 6 secondes, exactement à l'heure prévue, les communications avec la Terre cessent. Ils sont passés de l'autre côté de la Lune. Et dans le jargon des astronautes, ils montent la colline. Les astronautes peuvent voir les cratères lunaires éclairés par le soleil rasant, ce qui leur permet de confirmer que ce sont bien des cratères d'impact et non pas des coulées de lave. Le moteur du module de commande se met en marche pendant 4 minutes pour freiner le vaisseau et le mettre en orbite elliptique autour de la Lune, entre 313 et 110 km d'altitude. La première description de la surface lunaire est faite par Lovell. La Lune est entière, essentiellement grise, sans couleur. Ça ressemble à du plâtre de Paris ou à une plage de sable gris sur laquelle mes enfants auraient pu jouer. Ils vont survoler le site choisi pour Apollo 11, la mer de la tranquillité, et faire pendant 15 minutes des images TV en direct envoyées vers la Terre. Apollo 8 passe 20 heures en orbite, en faisant 10 fois le tour. Première vision de la face cachée de la Lune par des hommes, première photo réalisée par des astronautes, et merveilleuse photo du lever de Terre sur l'horizon lunaire au cours de la quatrième orbite, le 24 décembre, à 5750 km/h. Une grande oasis au milieu du vide immense de l'espace. Bill Enders, au moment de faire la photo, s'exclame « Mon Dieu, regardez cette vue là-bas, c'est la Terre qui se lève, comme c'est beau !» Il rajoutera, juste avant le retour vers la Terre, « Nous avons parcouru tout ce chemin pour explorer la Lune et le plus important est que nous ayons découvert la Terre. » Frank Borman le blaguera même au propos de ses photos. « Eh, ne prends pas cette photo, c'est pas dans le programme !» Et il avait réticent à embarquer du matériel photo pour cette mission. Il y aura 3 photos de ce lever de Terre, une en noir et blanc et 2 en couleur. Frank Borman déclarera « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi saisissant de ma vie. » Cette photo, prise alors que ce n'était pas prévu dans le plan de vol, sera considérée comme l'une des 100 photos les plus marquantes du XXe siècle. Le naturaliste américain Galen Rowell la qualifiera de « photographie environnementale la plus influente jamais prise ». Elle sera reprise sur un timbre américain et figurera sur une quantité innombrable de livres et de revues, mais toujours avec le sol lunaire à l'horizontale. Or, la photo a été prise avec l'horizon lunaire à la verticale. Les astronautes filmeront pendant leur 8e orbite le sol lunaire, film vu en direct par 1 milliard de spectateurs, soit à l'époque quasiment un tiers de l'humanité. Si les images du survol de la Lune ont fait le tour du monde, le peuple d'un seul pays a été tenu dans l'ignorance de cet exploit, les Chinois. Mais l'objectif de la mission est aussi de photographier le site choisi pour Apollo 11, la mer de la tranquillité. 3 heures avant le réallumage du moteur, pour prendre une trajectoire vers la Terre, les astronautes font une deuxième transmission télévisée et ils en profitent pour envoyer un message de Noël. Frank Borman lit un passage de la Bible, les premiers versets du livre de la Genèse. Il conclut cette lecture par « L'équipage d'Apollo 8 vous souhaite une bonne nuit, bonne chance, un joyeux Noël et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sur cette bonne vieille terre. » La phase la plus stressante pour l'équipage est le contrôle au sol et celle du réallumage du module de commande du module du service pour le retour vers la Terre, car elle doit se faire alors que le vaisseau est du côté de la face cachée de la Lune. Après avoir reçu le feu vert de Houston, Borman dit « C'était une semaine fantastique, n'est-ce pas ? » Ce à quoi Anders répond « Il faudrait quand même pas s'éterniser là. » Le moteur du module de service est rallumé le 25 décembre à 7h10 et le message confirmant la réussite de l'opération est envoyé par le commandant de bord au moment du rétablissement des communications. « We have got it. On l'a fait. » Lovell déclarera « S'il vous plaît, soyez informé qu'il y a un Père Noël. » Autre version « On est là, il faut croire au Père Noël. » Ce qui a déclenché des rêves sur la découverte d'une installation extraterrestre sur la face cachée de la Lune, dont aucune preuve n'a été apportée par les nombreuses missions suivantes. En fait, ce n'était qu'une phase codée pour signaler que le moteur s'était bien allumé. Pour les 3 astronautes, la Lune est un amoncellement de tas de pierres ponces, n'apparaissant pas comme un endroit très attrayant pour vivre ou travailler. Apollo 8 se pose dans le Pacifique le 27 décembre à 16h51. Au sud d'Hawaï, à l'heure exacte prévue au programme, et est récupéré par le porte-avions Yorktown. Après leur atterrissage, leur amérissage, la capsule se retrouve tête en bas, donnant le mal de mer à Borman, mais pas à ses 2 camarades, officiers de marine. Leur voyage a duré 6 jours, 2h52. Les 3 astronautes ont été élus hommes de l'année par Time en 1969, et une cérémonie les a réunis au musée de l'astronautique de Chicago en octobre 2018 devant le module de commande d'Apollo 8 qui est exposé. Frank Borman quitte la NASA en 1970 et devient consultant d'Eastern Airlines. C'est lui qui conseillera à la compagnie d'acheter des Airbus A300, lançant la carrière de cet appareil et de toute la gamme Airbus. Jim Lovell sera la doublure de Neil Armstrong pour Apollo 11, puis le commandant de bord d'Apollo 13. Bill Anders, doublure de Michael Collins pour Apollo 11, fut secrétaire exécutif du Conseil national de l'aéronautique et de l'espace, ambassadeur des États-Unis en Norvège, ingénieur dans la branche nucléaire de General Electric et vice-président de General Dynamics, le fabricant des fusées Atlas, jusqu'en 1994. Maintenant, je vous propose d'écouter les Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Это было в далеких холодных краях, через 20 лет после войны. Заключенный Макеев всю жизнь в лагерях просидел до 60. Истрепала его поэтапная жизнь, печень выел собачий лай. Пил и дрался он часто, отчаявшись, что его карта так легла. В километре от зоны школа была, там работала много лет. Далеко уже не молодая вдова, выходившая на парапет. И заметил однажды Макеев ее, из барака чуть не свалился. Хоть не мог он увидеть ее лицо, просто в женщину вдруг влюбился. Он на крыше барака с утра ее ждал, и ромашку огромную белую для нее на стене мелом нарисовал. Лепестки вытирал неделями, и, конечно, заметила это она, и подолгу стоять оставалась. А тем временем зона завидовала, и охранники удивлялись. Перестал дебоширить, Макеевы пить, и на биржу ходил, надеясь, что когда-нибудь сможет рядом пройти и в глаза посмотреть, робея. И случилось, представьте, все именно так, их дороги перекрестились. Постепенно колонна замедлила шаг, и конвойные с тем смирились. И она поняла, и глаза подняла. Он в записке ей крестик бросил. И тогда она шарфик свой красный сняла. Передать был конвой не против. Полетел над колонной, как огненный шар, и на шею к нему опустился. В тишине гробовой застонала душа. Вот такой разговор сложился. Все шли автоматчики с зэками вместе. Он снимал шарф и ей посылал маяки. Она прижимала крестик. Что же будет с ними, не знает никто. Но в одном лишь сомнений нет, что сидеть ему всего ничего, лишь 14 долгих лет. We'll be right back.
Et oui, une version de Dark Side on the Moon, très originale, si j'ose dire. Seulement, on a complètement déstabilisé. Bon, allez, reprenons le fil conducteur de notre émission. Les Américains sont allés tourner autour de la Lune avec Apollo 8. Pourquoi ne s'y sont-ils pas posés avec Apollo 9, Jean-Jacques Ibos, tu peux nous répondre à cette question ?
Bien sûr, avec plaisir. Nous avons vu que la mission Apollo 8 avait été avancée par rapport au calendrier initial pour des raisons techniques et politiques. Et avant d'aller poser le LEM sur la Lune, il fallait l'essayer en vol. Mission réalisée par Apollo 9 autour de la Terre, puis Apollo 10 autour de la Lune. Bon, Apollo 9, la mission se déroule du 3 au 13 mars 69. Il faut bien se rappeler que le LEM, le Lunar Module, n'avait aucune possibilité de se reposer sur Terre. Il a été conçu pour évoluer dans un environnement sans atmosphère et était, au dire de ses occupants, l'engin le moins aérodynamique qu'ils avaient eu à piloter. Aussi, la manœuvre d'éloignement du LEM par rapport aux commandes modules en orbite terrestre était une phase de test tout aussi risquée que celle à venir autour de la Lune. Une fois que le module de commande s'est connecté au LEM, et après la séparation avec le lanceur, le moteur du module de service, puis celui du module de descente du LEM, sont mis à feu successivement. Schweikart et McDivin passent dans le LEM. Malgré les risques, l'humour reste présent. Le commandant de bord David Scott, resté dans le module de commande Gumdrop, dit à ses équipiers s'éloignant en vol autonome à bord du LEM Spider, James McDivitt et Russell Schweikart, « Les gars, j'ai l'impression que je vais rentrer seul à la maison. » Ils allument plusieurs fois le moteur de descente. Schweikart fait une sortie dans l'espace en marchant sur l'échelle de descente du LEM, comme s'il allait poser le pied sur la Lune. Et Scott a ouvert l'écoutille de la cabine, prêt à accueillir ses deux compagnons au cas où il y aurait un problème. Une fois Schweikart rentré dans le LEM, il s'éloigne avec ses deux passagers de 190 km du module de commande, utilisant le moteur de descente du LEM. Ils vont jusqu'à 200 km d'altitude. Puis, McDivitt largue la plateforme de descente et utilise le moteur de remontée pour rejoindre la capsule Apollo. Les voyant arriver, Scott leur lance « Je vois la plus grosse et la plus amicale étoile que j'ai jamais vue. » Ils sont restés séparés pendant 6h20. Toutes les manœuvres nécessaires aux posées sur la Lune ont été validées par ce vol, ouvrant la porte à la même répétition, mais autour de la Lune cette fois. Et entre le 18 et le 26 mai 69, Apollo 10 va réaliser cette mission. Le commandant de bord est John Young, le pilote du commande module Thomas Stafford et celui du LEM Eugene Cernan. L'objectif, vol autour de la Lune, répétition in situ de l'alunissage et repérage du futur site d'alunissage d'Apollo 11, au-dessus duquel ils vont passer 32 fois. Les astronautes réalisent plusieurs émissions de télévision, en direct, montrant en couleur la Terre flottant au milieu du néant, tel un gros ballon bleu, blanc, vert et brun. 98 heures après leur décollage, le 22 mai à 20h18, à la séparation du LEM Snoopy et du commande module Charlie Brown, les astronautes se rendent compte d'une déviation de 3 degrés du collier de liaison, risquant de compromettre la jonction lors du retour du LEM. Mais les techniciens de la NASA, considérant que la limite du danger est à 6 degrés, autorisent la poursuite des opérations. Et les astronomes informeront la Terre, après avoir bouclé un autre tour de la Lune, que la séparation s'était bien passée. Une inconnue de taille faisait partie de cette mission. Cernan en a fait état après cette mission. Aucun de nous ne savait à ce moment-là ce qui pourrait se produire par la suite et si Snoopy, le LEM, et Charlie Brown, module de commande, avaient une chance de se retrouver un jour. Il n'y avait aucune garantie. Resté seul à bord du commande module, Eugene Cernan inspecte le LEM sous toutes ses faces. Puis voit le module lunaire s'en éloigner, ses camarades s'approchant à 14,3 km de la surface lunaire et à plus de 650 km de la cabine. On imagine la frustration des deux astronautes, John Young et Thomas Stafford, de ne pas être les premiers à se poser sur la Lune, alors qu'ils vont la frôler de si près, à bord du LEM, avant de rejoindre le module de commande. Mais au moment de larguer le module de descente du LEM, au 17e tour, un autre incident vient émailler cette première. Le LEM s'est mis à tournoyer. L'ordinateur du LEM s'étant mis trop tôt à rechercher la cabine, obligeant l'équipage à passer en mode de pilotage manuel. Cernan lâchant un juron « Son of a bitch ». Puis le moteur de remontée est allumé, amenant le LEM en approche du commande module. Après leur jonction, le LEM est largué. À la 32e révolution, le commande module met à feu son moteur et Apollo 10 rejoint la Terre, où il amerrit le 26 mai. Un énorme gâteau, 2 mètres de long, 118 kilos, les accueille à leur arrivée sur le porte-avions Princeton. Une personne a réagi à ce nom posé, le général Samuel Phillips, directeur du programme Apollo de 64 à 66. Quand vous voulez envoyer un coup de poing à quelqu'un, vous ne commencez pas par faire une répétition en vous arrêtant à un centimètre de son nez. Eugene Cernan verra sa patience récompensée. Il sera le pilote de la dernière mission à habiter et le dernier homme à marcher sur la Lune, avant très longtemps. Je vous propose d'écouter les Beatles, Mr. Moonlight. Après ce petit extrait des Beatles, je passe la parole à Monsieur Bertrand Roumens, qui a été pilote de ligne. Pas autour de la Lune, lui.
Dans le cadre de ces émissions sur la conquête de l'espace, j'aimerais que l'on évoque les différents métiers de l'espace, et vous, de l'air et de l'espace, et vous avez un métier très connu du grand public, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est celui de pilote de ligne. Donc vous avez fait votre carrière chez Air France. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste le métier d'un pilote de ligne ?
Oui, bonjour Jean-Jacques. Métier de pilote de ligne, très brièvement, consiste à aller d'un point A à un point B, transporter des passagers en toute sécurité.
Je crois que c'est très important, la notion de sécurité.
Oui, tout à fait, parce que lorsque j'exerçais ce métier, j'étais conscient que je transportais des familles et des gens, des personnes qui me faisaient totalement confiance.
C'est vrai que quand on est accueilli par le commandant de bord, on est content d'écouter une voix humaine qui dit « Bienvenue, on va aller à tel endroit ». Et ça, c'est toujours rassurant pour un passager.
Oui, le but premier, c'est de rassurer les passagers parce que vous avez une partie des passagers, ils sont très, très angoissés. Et donc, ils sont en demande de phrases agréables, de phrases réconfortantes.
En plus du sourire de l'hôtesse qui est aussi pas négligeable, ça permet aussi de faire tomber la pression.
Oui, ça n'enlève rien. L'équipage commercial a un rôle d'accueil extrêmement important. C'est vrai que la grâce d'une jeune femme ou le sourire d'un steward peut changer la donne.
Complètement. Donc, là, les passagers sont dans l'avion, mais je suppose que vous arrivez bien avant dans l'avion. Et ça se prépare pas, on monte pas dans l'avion comme on monte dans ces voitures pour aller d'un point A à un point B, ça se prépare.
Oui, la compagnie nous demandait d'être 2 heures avant le vol pour préparer en toute tranquillité le trajet du jour. Mais 2 heures, je vous avouerai que la plupart des pilotes sont là 3 heures avant, de façon à pouvoir, tout en commençant à regarder le dossier, prendre un café, s'étirer, et puis se donner du temps.
Et là, on fait quoi donc quand on prépare ce vol ?
Lorsqu'on prépare ce vol, on regarde d'abord si c'est le bon dossier, si ça correspond à votre trajet du jour. Ensuite, vous avez toute une partie information des terrains d'aviation où vous allez et d'où vous partez. Par exemple, on va prendre un exemple simple, un Paris-Rome, Roissy-Rome. Donc, vous étudiez les particularités du terrain de Roissy au jour du départ, à l'heure du départ, et celui de Rome à l'arrivée, pour voir s'il n'y a pas une piste fermée, par exemple, d'autres informations extrêmement utiles. Ensuite, vous regardez l'état du chargement du jour, le nombre de passagers, les particularités passagers. Je vous l'ai dit un petit peu en désordre, mais en général, nous avons un dossier de vol et nous le compulsons. Et puis, nous répondons entre guillemets à ce dossier page par page. Ensuite, vous avez l'état technique. C'est-à-dire l'état de votre avion du jour, si c'est bien l'avion qui a été prévu pour la mission, l'immatriculation, le type d'avion, etc.
Son état technique, donc il y a éventuellement des équipements en panne dessus, ça vous êtes au courant, vous savez.
Oui, alors vous pouvez avoir certaines restrictions techniques sur l'avion qui n'engendrent pas ce qu'on appelle un no-go, c'est-à-dire interdiction de partir.
Oui. Voilà. Donc ça, vous êtes fait ça au sol, et vous rentrez dans l'avion combien de temps avant les passagers ?
Alors nous rentrons dans l'avion, je dirais 50 minutes, entre 1 heure et 50 minutes avant les passagers, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui nous laisse du temps pour nous installer, pour voir l'état de propreté du cockpit, par exemple, puisque moi je m'installe là. C'est très très important la propreté, pour voir si rien ne traîne. Et ensuite, le PNC, le personnel navigant commercial de son côté, inspecte la cabine pour voir si elle est propre et s'ils peuvent recevoir les passagers.
En toute propreté, en toute sécurité.
Voilà.
S'il n'y a pas quelque chose qui traîne dedans.
Voilà.
Comme il y a toujours des gens qui oublient des objets dans la cabine, dans les dossiers.
Tout à fait.
Tout à fait.
Et le personnel navigant commercial a déjà été prévenu. Par exemple, s'il y a un siège qui est inopérant, donc il sait ce qu'il va trouver dans sa cabine, dans leur cabine.
D'accord. C'est l'équipage d'avant qui a prévenu.
C'est l'équipage qui a marqué sur un carnet les dysfonctionnements de la cabine, de même que moi, je vais consulter l'état technique de l'avion où j'aurai des remarques de l'équipage concernant le vol précédent.
Donc on a embarqué les passagers, c'est le personnel navigant commercial qui vous informe que tout est prêt, ou c'est vous qui dites il faut absolument à telle heure que tout le monde soit attaché pour qu'on puisse partir?
Non, c'est l'agent d'escale qui nous dit que l'embarquement est terminé, que nous pouvons fermer les portes et ensuite partir.
L'agent d'escale, c'est quelqu'un qui fait partie de l'aéroport,
de la compagnie. C'est ce qu'on appelle, l'agent d'escale, le chef avion ou la chef avion, et qui va s'occuper de l'embarquement des passagers et qui va superviser l'ensemble de l'embarquement et va communiquer les dernières informations à l'équipage.
Et donc tout le monde est rentré, on a fermé les portes, donc là, vous mettez la machine en marche et vous vous commencez, vous mettez les moteurs et vous commencez à rouler vers la piste.
Oui, alors avec évidemment l'autorisation de la tour de contrôle qui va nous accorder la mise en route. Mais il se peut que nous ayons ce qu'on appelle un créneau, c'est-à-dire nous allons différer l'heure de mise en route de façon à ne pas consommer du carburant pour rien et ne pas polluer la plateforme. Et si nous n'avons pas de délai pour la mise en route, nous partons assez rapidement et puis nous nous dirigeons vers la piste en service du jour en fonction du vent en général.
Et là, donc, on se met en bout de piste. On est sur les freins, on met les moteurs et ça doit être quand même un moment stressant, non ?
Alors, avant cela, nous avons effectué la dernière checklist, la dernière vérification rapide. Et là, nous nous alignons et puis, avec l'autorisation de la tour de contrôle, nous mettons la poussée du jour et nous décollons. Alors le stress, non, parce que ça fait partie, on pourrait dire, de la routine du métier. Le stress, il est personnellement, j'ai jamais eu de stress au moment du décollage, mais nous sommes particulièrement attentifs.
Et donc le décollage s'est bien passé, on atteint le niveau de croisière. Une fois que vous dites aux passagers qu'on atteint le niveau de croisière, éventuellement qu'on peut dégrafer la ceinture tout en restant attaché le maximum. Et là, vous branchez pilote automatique. On a l'impression que les pilotes, là, ils font plus rien. Ils attendent que ça passe jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport d'arrivée où ils vont reprendre en main pour atterrir ou laisser la machine atterrir toute seule. C'est quoi le travail du pilote quand il est dans sa cabine, dans un vol croisière qui se passe normal, bien ?
Alors déjà, après le décollage, nous enclenchons le pilote automatique assez rapidement. Je dirais moins de 10 minutes après le décollage. Bon, il y a des pilotes qui veulent un peu se faire plaisir, qui pilotent l'avion. Mais si nous voulons avoir le maximum de disponibilité, nous enclenchons le pilote automatique qui va suivre la trajectoire du jour. Et ceci jusqu'à la finale de l'arrivée. L'exemple de la croisière, avec un pilote automatique, lui, il va bien tenir votre niveau de vol. Ce qui n'est pas toujours le cas avec un pilotage manuel où il y aura des temps de réponse moins rapides qu'avec un pilote automatique. Mais l'avantage du pilote automatique, c'est la disponibilité, une grande disponibilité.
Alors de l'équipage ?
Oui, de l'équipage pour la conduite du vol. Oui, et en ce qui concerne les ceintures, alors c'est assez important parce que vous pouvez, après le décollage, libérer les passagers, mais nous conseillons toujours aux passagers de garder leur ceinture attachée, même s'ils n'ont pas à se déplacer. On peut avoir une turbulence, quelque chose d'assez soudain. Donc on conseille aux passagers de rester assis, attachés, sinon pas pour des besoins physiologiques à se déplacer.
Oui, et s'ils ont besoin qu'on leur serve quelque chose, il y a les hôtesses et le personnel de cabine qui est là pour les servir.
Tout à fait.
Très efficacement.
Tout à fait.
Très bien. Donc après, on a fini le vol, vous arrivez à l'atterrissage. L'atterrissage, il se passe toujours en automatique ou il y a encore des pilotes qui aiment atterrir à la main, en manuel ?
Non, généralement, lorsque le temps le permet, nous posons l'avion manuellement. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé par la compagnie, excepté les jours de brouillard, où là, l'atterrissage se fait entièrement en automatique. Pourquoi ? Parce que le pilote automatique, lui, il va bien poser l'avion. Ça ne veut pas dire que le pilote ne serait pas capable, mais...
Quand on n'y voit rien...
Oui, alors le pilote automatique, lui, il sait à quel moment il va vous demander de réduire et faire l'arrondi. Donc, il le fait lui-même. Et c'est extrêmement important, parce que moi, j'ai fait plusieurs arrivées par temps de brouillard. On est assez surpris de voir arriver la piste au moment où l'avion commence à arrondir. Et puis on se dit qu'il le fait très bien. Et ensuite, une fois que nous sommes posés sur la piste, eh bien nous passons ce qu'on appelle les reverses, c'est-à-dire on cède à freiner avec un jet contraire des moteurs, et puis l'avion va freiner tout seul. Et lorsque nous quittons la piste, à ce moment-là, nous désenclenchons le pilote automatique pour pouvoir ensuite circuler sur les voies de circulation.
Et vous allez vers le point de stationnement que vous avez indiqué?
Oui, alors ça, nous le savons déjà. En approche, on contacte la compagnie qui va nous dire vous serez à tel parking. Ou alors c'est le sol, lorsque nous passons sur la fréquence sol, qui va nous dire dirigez-vous sur le parking vers le parking Alpha 8 par exemple.
Et là, donc vous arrivez, on arrête l'avion, coupe les moteurs, le personnel de cabine ouvre les portes, et vous, votre travail consiste en quoi à ce moment-là quand vous avez posé l'avion? Préparer un rapport?
Alors, lorsque nous arrivons au parking, avant d'ouvrir les portes, nous nous assurons que l'avion est bien calé par le personnel du sol. Nous effectuons la dernière checklist. Les gens de la piste emmènent la passerelle et à ce moment-là, les passagers peuvent commencer à débarquer. Mais tout ça se termine, il faut toujours être extrêmement vigilant de l'environnement, de l'avion au sol et répondre rapidement aux ordres des placeurs ou à l'escale qui va vous donner, par exemple, l'autorisation d'ouvrir la porte.
Oui, tant qu'il n'y a pas la passerelle,
voilà.
Tu n'es pas prêt.
Il faut que tout soit stabilisé.
Oui, il y a déjà eu des accidents de gens qui étaient tombés parce que vous avez ouvert la porte et malheureusement, c'était du personnel de cabine. La passerelle n'était pas bien en place.
Tout à fait, oui.
Il y a même eu un accident en Roissy, il me semble.
Il y a eu un accident d'une jeune hôtesse qui est tombée entre la passerelle et l'avion, et parce que la passerelle n'était pas contre le...
Contre
l'avion, oui. Ouais.
Bien. Est-ce que vous avez quelque chose... Enfin, dans votre métier de pilote de ligne, qu'est-ce qui vous a le plus passionné? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier et dans votre carrière, qu'est-ce qui vraiment vous donnait envie tous les jours, je ne sais pas si vous vouliez tous les jours, mais tous les jours d'aller piloter cet avion et d'amener des passagers à droite et à gauche?
Alors c'est une question intéressante, je me la pose encore aujourd'hui, il faudrait peut-être passer par une petite séance de psychanalyse, psychanalyse de parking d'avion, mais je ne sais pas, ma famille n'était pas issue de l'aéronautique. En fin de compte, les balbutiements se sont produits le jour où, en Afrique, dans les années 50, j'ai fait mon baptême de l'air à bord d'un DC-3 d'Air France. Et il faut quand même que j'insiste parce que c'est une anecdote qui m'émeut toujours. Le steward était un Africain et il m'avait offert du Coca-Cola dans un gobelet en papier. C'est la première fois de ma vie que je buvais du Coca-Cola. Et ensuite, il m'a fait visiter le poste de pilotage où là, j'ai vu la forêt équatoriale tout autour de moi, enfin devant, et j'ai vu à gauche le commandant de bord qui m'a très gentiment accueilli, et à droite, le copilote qui lisait le journal au-dessus de la forêt équatoriale. Alors là, ça m'avait épaté. Je pense que le déclenchement s'est fait à ce moment-là.
Et dans votre carrière, est-ce que vous avez eu l'occasion, justement, de donner l'opportunité à des gens de venir voir ce qui se passait en cabine?
Oui, alors quelquefois, les passagers demandent, on accepte ou on n'accepte pas, suivant... D'abord, on respecte les consignes de la compagnie, hein. Mais il y a aussi des tolérances. Il faut permettre à des passagers angoissés de venir voir ce qui se passe devant et leur expliquer que nous sommes là et qu'il est bon qu'ils aient une impression du vol, mais à travers le poste de pilotage. Et quelquefois, ça change la donne.
Oui, ça donne confiance.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, ils voient notre côté... on est généralement assez relaxé et ils se disent, bon, ils sont pas angoissés. Apparemment, ils ont l'air d'être bien là où ils sont. Ils sourient. Ils ont des gestes qui ne sont pas agités. Donc, ça redonne confiance.
Puisque eux ne sont pas stressés, il n'y a pas de raison que moi je sois stressé.
Oui. Et puis moi, je ne suis pas d'une nature stressée. Alors, je crois que si on est stressé, on évite de faire ce travail parce qu'on s'épuise. Hein.
Ouais. À titre personnel, j'ai eu l'occasion 3 ou 4 fois de voler en troisième homme, là, au milieu.
Oui.
C'est fantastique. Un vol complet en tant que... pas passager, mais troisième homme. Franchement, c'est une expérience extraordinaire. Et comme vous le dites, on peut toujours demander à une hôtesse d'aller demander si on peut aller faire un tour en cabine. Et moi, je le recommande parce que c'est vraiment très, 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 très beau de voir le ciel et la terre devant, juste devant soi. Quand on est passager, si on a la chance d'avoir un hublot, c'est bien. Autrement, on est enfermé. Mais de voir le ciel, les nuages qui défilent devant vous, c'est vraiment une expérience extraordinaire.
Alors oui, c'est une chance de pouvoir le faire. D'abord, on assiste au travail de l'équipage, comment travaillent les pilotes, comment ils se comportent. Ça, c'est intéressant. On écoute le trafic radio. Et ensuite, il y a la beauté du vol, c'est-à-dire le fait de voler à très haute altitude, sans nuages au-dessus, tous les nuages sont dessous. Et puis si, pour les personnes qui aiment la géographie, c'est de se situer dans l'espace par rapport au lieu que nous survolons.
Oui, survoler les Alpes en avion, c'est quand même un grand moment.
Alors oui, c'est un moment très émouvant parce que vous êtes au-dessus de toutes ces montagnes. C'est un très beau spectacle. Alors moi, je dirais que le plus beau spectacle auquel j'ai assisté, c'est la traversée du Sahara de jour. Donc vous imaginez un avion qui va de Paris, par exemple, à Douala, et vous traversez le Sahara, mais la particularité, avec la carte Michelin du Sahara sur les genoux. C'est que l'avion, lui, suit sa trajectoire, et puis nous sommes là pour, évidemment, suivre notre vol. On a des points de report, on a des appels radio à faire obligatoirement. Donc nous sommes totalement dans notre vol, mais le plus, c'est cette carte Michelin qui est installée sur la petite tablette, puisque c'est un Airbus. Et vous déroulez votre carte Michelin au fur et à mesure que l'avion avance pour connaître certaines pistes, des points particuliers. Et ça, c'est une grande, grande joie.
Ça donne envie. Ça donne vraiment envie.
Oui, oui, c'est la curiosité. Moi, je dis toujours que la curiosité permet de vivre. À partir du moment où on n'est plus curieux, eh bien, écoutez, je crois que c'est la fin de la vie.
Et aujourd'hui, on voit avec toutes les compagnies qui se créent, des low cost dans le monde entier. Il y avait une étude récemment qui disait qu'ils cherchaient plusieurs dizaines de milliers de pilotes. Donc c'est un métier ouvert, c'est un métier qui va recruter. Il y a beaucoup de pilotes de notre génération, de votre génération, qui vont partir à la retraite. Donc il va y avoir du remplacement, il y a des machines nouvelles, il y a des machines extraordinaires. Donc c'est vraiment un métier qu'on peut conseiller à ceux qui ont les capacités, qui ont envie, qui peuvent faire des études longues, passer des tests qui peuvent être difficiles, mais c'est un métier très intéressant, et puisqu'il ne gâche rien, c'est un métier où on n'est quand même pas trop mal payé.
Alors moi je dirais que la première chose, lorsqu'on désire, on a le souhait de devenir pilote de chasse ou pilote de ligne ou pilote de brousse, qu'importe, c'est la motivation. Il est extrêmement important d'être motivé pour faire ce travail. Il faut s'émerveiller. Si vous faites de ce travail sans vous émerveiller, eh bien écoutez, moi je dis qu'il manquera quelque chose d'essentiel. Et puis ensuite, en effet, le recrutement va s'accélérer. Aujourd'hui, le problème, c'est de bien former des pilotes et puis de les mettre le plus rapidement en ligne. Mais hélas, moi, j'ai assisté à quelques conversations dans lesquelles les gens me racontaient, les formateurs, les instructeurs me racontaient que la motivation n'était pas forcément là. Alors, quelquefois, les gens viennent parce qu'ils ont vu une annonce, parce que ils savent que c'est un métier qui est correctement rémunéré. Bon, et puis il y a quelque chose de prestigieux. Alors sur le plan social, ça fait très bien, mais c'est une mauvaise voie.
Oui, et la motivation, il faut qu'elle soit. J'ai eu l'occasion d'interviewer d'autres spécialistes, des chercheurs et compagnie. C'est un leitmotiv. Il faut être motivé dans ce qu'on fait. Il faut avoir envie tous les matins d'aller faire ce qu'on va faire. Et c'est pas uniquement alimentaire. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui plaise d'aller se mettre dans un avion et de partir à 20 000 mètres d'altitude avec la responsabilité de plusieurs centaines de personnes avec soi qu'on emmène et qui vous font entièrement confiance.
Lors de la prochaine émission, nous évoquerons le premier alunissage de l'histoire de l'humanité, celui d'Apollo 11, ainsi que le suivant, Apollo 12, et le suspense qui a accompagné la mission Apollo 13. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 18 juillet 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de la Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission ainsi que les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio Fréquence Mistral et sera rediffusée le mercredi 12 juin à 15h. Merci à James pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.